On va faire deux lectures dans le livre de Josué, chapitre 1er, Josué chapitre 1er, et le verset 5, et Matthieu chapitre 28, verset 20. Là, vous avez quelques textes, mais nous reviendrons dans le livre de Josué pour lire d'autres passages. Donc, merci de, si vous avez votre Bible ou une application Bible, merci de suivre avec moi ces différents textes. Et là, nous lirons à partir du verset 1er, dans le premier chapitre de Josué. Pour comprendre cette parole de Dieu prononcée à Josué dans son contexte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. » Et dans Matthieu, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, vous l'avez compris, le dernier chapitre. Matthieu, chapitre 28, et à partir du verset 16, Matthieu, chapitre 28, verset 16, c'est la mission commandé aux disciples par Jésus lui-même. Matthieu, chapitre 28, verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » C'est une belle parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reviens aux paroles qui ont été prononcées à Josué. Il faut quand même reconnaître que ce que Dieu dit à Josué est capital. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est Josué qui va faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Ça signifie que ce n'est pas une mince affaire. Vous l'avez compris, c'est quelque chose c'est un immense chantier qui s'offre à lui. Et il avait de quoi être intimidé, pour ne pas dire inquiet. Et face à cela, Dieu lui ouvre une perspective incroyable. Dieu lui demande d'avoir du courage. Dieu lui demande de se former, d'ailleurs, pour affronter ce qui l'attend. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est ce qu'il continuera à lui dire un peu plus tard au verset 8. Mais il insiste en lui disant « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera pour vous. » Alors ça, c'est cadeau, c'est extraordinaire. Et vous comprenez que Dieu lui a fait des promesses. Mais il me semble que derrière tout cela, le plus important, c'est ce que j'ai retenu à l'écran. Ce n'est pas que Dieu lui ait fait des promesses. Le pays est à toi. Tu vas le conquérir, vous allez prendre possession du pays, vos ennemis vont être chassés, ce pays est à vous, pays où coule le lait et le miel, pays rempli de promesses. C'est extraordinaire, mais le plus important demeure ceci: si Dieu n'était pas avec eux, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Si Dieu ne les avait pas accompagnés, ça se serait terminé comment à votre avis? Si Dieu n'avait pas été près d'eux, est-ce que ça aurait aussi bien marché, sachant que ça n'a pas toujours très bien marché. Heureusement que Dieu était là. C'est sans doute la parole la plus importante, les mots les plus importants. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Si on compare la mission des apôtres, la mission des disciples, avec ce qui est dit à Josué, c'est un petit peu la même chose, parce que ce que Dieu demande aux disciples est juste incroyable. Aller évangéliser la terre tout entière. Alors, ils ne le feront pas physiquement, mais le message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, allez-y, c'est à vous, le chantier est devant vous, allez-y. Mais quand on y pense, ça semble difficile tout de même, ça semble difficile à concevoir une telle chose. Il y a une seule possibilité, bien évidemment, pour que ces hommes puissent bouleverser la terre entière, une seule possibilité, il fallait que Jésus-Christ soit présent avec eux, il fallait qu'il travaille avec eux, il fallait que lui soit là pour accomplir les prodiges, les miracles, parce que ce n'était pas le fait de ces hommes-là, même s'ils avaient vu, même s'ils avaient entendu, même si, d'ailleurs, pendant un temps, alors que Jésus était encore avec eux, ils avaient reçu puissance et force pour aller délivrer les possédés, guérir les malades, et ils vont le faire. N'empêche que, le plus important pour annoncer l'Évangile, c'était de savoir que Jésus était avec eux tous les jours. Tous les jours. Jamais un jour sans, jamais un jour absent, jamais un jour tout seul. Il était avec eux tous les jours. Alors, certains auraient pu se dire que ça réclamait évidemment un acte de foi et un engagement qui était vraiment personnel, mais un acte de foi incroyable. Allez, je vais aller avec ce seul message, un seul nom, le nom de Jésus, et il va se passer de grandes choses. D'autres auraient pu regarder ça avec curiosité, en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait cela? Pourquoi il a décidé de tout plaquer, de s'en aller et d'annoncer l'Évangile? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Certains pensent même qu'un chrétien engagé, un homme qui a la foi, une femme qui a la foi véritablement attachée aux promesses de Dieu, est capable de prendre des décisions incroyables. Et certains diraient, mais j'ai l'impression qu'il travaille, entre guillemets, sans filet. C'est-à-dire un petit peu au petit bonheur la chance. Tant qu'il tient sur le fil, ça va. Et s'il tombe, c'est la mort assurée. Mais non, non. Ce que le monde ne voit pas demeure une réalité spirituelle. On a l'air d'être seul. Quand on parle à quelqu'un, quand on rend témoignage, quand on sert Dieu, mais jamais seul. Jésus est là. Ce qui ne se voit pas avec nos yeux est une réalité spirituelle malgré tout. Et frères et sœurs, je crois que les disciples, et vous le savez bien, ont été bénis. Ça n'a pas empêché la persécution, ça n'a pas empêché les difficultés. Mais quant au message, il y avait une protection surnaturelle et miraculeuse et divine sur eux, parce que si elle était invisible, elle était bien réelle et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ainsi, il les a utilisés. Alors, frères et sœurs, je voulais vous encourager. Une pensée, cette pensée qui m'a traversé l'esprit, me semble-t-il, est importante pour plusieurs ce matin. Frères et sœurs, vous ne serez jamais seuls. Vous ne serez jamais seuls. C'est une réalité. Vous ne le verrez pas constamment. Vous ne le verrez pas tout le temps de façon probante devant vos yeux, mais il sera toujours là et il sera toujours là à vos côtés. Avez-vous besoin d'être rassuré? Certains ont eu besoin d'être rassurés. Je commence par Josué. Josué, oui, d'accord, il est avec moi. Il a dit qu'il ne me délaisserait pas. Alors, on y va. Premier obstacle, Jéricho. Premier obstacle, bref, le pire. Il aurait peut-être préféré avoir affaire à, je ne sais pas, un campement de quelques peuples installés par là, une dizaine, une centaine de personnes, histoire de se faire un peu la main, voir si on est capable de faire peur et voir si on est capable de chasser ses ennemis et leur dire que maintenant on est chez nous. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous, on aimerait bien que les choses se passent comme ça, en fait. On a la foi, on croit que Dieu peut agir, on croit que Dieu peut intervenir, on croit que Dieu pourrait faire quelque chose pour nous, évidemment, et on voudrait avoir confiance et on serait prêt à lui dire « Seigneur, est-ce que tu veux bien me faire vivre une petite épreuve maintenant, que je vois si je tiens le coup ?» Avant que ce soit une grosse, d'abord une petite, je me fais la main, je m'exerce, et puis après, si je passe l'épreuve, alors ok, pour une épreuve un petit peu plus difficile, et si je passe encore. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas saute-mouton. Hein. Ce n'est pas un saut d'obstacle, en espérant que la dernière épreuve soit la plus terrible, mais on en aura tellement gagné qu'on va la passer également. Non, il est possible que Dieu vous amène directement devant un mur infranchissable. À ce moment-là, et il verra si vous avez la foi et il verra si vous croyez qu'il est avec vous. Eh oui, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Et quand il se trouve devant Jéricho, il a armé son peuple, il les a préparés, ils ont vécu un moment particulier, ils ont célébré la Pâque. Et tout de suite après cela, il a dit à ceux qui étaient avec lui, maintenant on va aller combattre Jéricho. Jéricho est imprenable. La Bible dit, chapitre 6, Jéricho était fermé, barricadé, personne ne sortait, personne n'entrait. Il n'y a absolument aucune raison de penser qu'Israël a les armes pour faire tomber Jéricho. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas les armes. C'est un peuple qui sort du désert, 40 ans de désert, avec des conflits, avec des difficultés. Mais, soit dit en passant, le désert, ça use. Ça ne fait pas que former, ça déforme aussi. Ça fait du tort, ça fait du mal. Et quand ils arrivent devant Jéricho, qui eux sont à l'intérieur de la forteresse et sont en position de hauteur, vous savez bien, où sont ceux qui ont, si vous voulez, la prééminence par rapport aux autres, ce sont ceux qui sont à l'intérieur de la forteresse. Et Jéricho tombera parce que Dieu avait dit qu'aucun obstacle ne résisterait. Cependant, Josué va vivre quelque chose de surprenant, va vivre quelque chose d'étonnant. Il nous est dit au chapitre 5 et au verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. » Elle n'était pas dans le fourreau, elle était dégagée. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non. » Ni l'un ni l'autre, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Une vision surnaturelle, spirituelle. Cet homme n'est pas un homme, ce chef de l'armée de l'Éternel est au bas mot un ange, sinon chef des anges, et on pourrait même penser que Jésus lui-même s'est présenté à ce moment-là. Donc Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon Seigneur ? Quelle est la stratégie ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment on y va ? Comment on va se battre ?» Rien de tout ça. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Vous imaginez, au moment d'aller à la bataille, qu'est-ce qui pouvait le mieux rassurer Josué que l'apparition de Dieu lui-même qui lui confirme « Je t'ai dit, je ne te délaisserai point, je t'ai dit, je serai avec toi, je t'ai dit, je serai là, ne perds pas courage. » Est-ce qu'il y avait une vision qui aurait pu davantage le rassurer, à votre avis ? Moi, je ne crois pas. Il n'y avait pas mieux que ça. Quand il se dit, c'est la dernière nuit, demain, on prend les armes, demain, on va aller se battre. Et il va y avoir une stratégie un petit peu particulière, tourner autour de la ville sans faire de bruit, une fois le premier jour, encore une fois le deuxième jour, et pendant 6 jours, faire cela, mais le septième jour, faire 7 fois le tour de la ville, toujours, sans dire un mot, rien du tout. Au son de la trompette, les murs de Jéricho allaient tomber. Jéricho, c'est le baptême du feu. Et pour nous, il y a eu forcément un jour un Jéricho qui a été le baptême du feu. Et les conditions de la victoire étaient là, finalement, parce que Dieu avait promis qu'il serait là, Dieu avait promis qu'il les bénirait. D'ailleurs, il y avait des espions qui avaient été espionner Jéricho. Et quand ils sont entrés dans la ville, ils ont été dans la maison de cette femme qui s'appelait Rahab. Vous vous souvenez de ça ? Et cette femme va dire à ces deux espions, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous car nous avons appris comment vous avez traité les autres peuples. Nous avons perdu courage, nos esprits sont abattus à votre aspect. » Ça, c'est encourageant, non ? C'est encourageant quand même. Hein ? C'est une parole encourageante. C'est fait pour les encourager. Hein. C'est fait pour leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre. Mais encore, s'il fallait encore une parole de plus, s'il fallait encore quelque chose de plus, ils ont été encouragés d'ailleurs. On s'aperçoit même que Dieu va encore aller un petit peu plus loin, va encore encourager cet homme, Josué, quand les deux espions reviennent. Ils expliquent tout à Josué, rien ne va être caché. Et Josué peut se dire, c'est gagné, c'est dans la poche. Mais quand vous y êtes, c'est pas la même chose, quoi. Quand il faut y aller, là, quand vous êtes juste devant, alors l'apparition de cette créature angélique, de Dieu lui-même, certainement, a été là pour le rassurer. Le lieu sur lequel est un lieu saint. Ce n'est pas le moment de discuter stratégie, tactique. C'est le moment d'adorer Dieu parce qu'il a dit qu'il serait avec toi tous les jours. Et regarde, il le prouve. Regarde, il est là. Et il est là pour t'accompagner. Frères et sœurs, si vous aviez besoin encore d'être rassuré quand on a l'impression que c'est difficile, eh bien, ayez confiance en Dieu. Obéissez simplement à sa parole. C'est ce que Josué a fait et il a été béni. Je vous cite dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15, une parole intéressante lors d'une bataille d'un roi d'Israël. Il est dit ceci, « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Vous avez entendu ? Écoutez, je redis. Hein, je redis. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Frères et sœurs, dans toutes nos batailles, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous, on n'est qu'en second. En premier, c'est lui. Et c'est pour ça que ça marche. Et quand on est en premier, ça ne marche pas. Quand on est en premier, ça dérape. Quand on est en premier, on n'y arrive pas. C'est un acte fort. Josué va comprendre que celui qui va gérer la bataille, ce ne sera pas lui, mais c'est Dieu. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Rien du tout, je gère. Toi, tu pries et tu adores, et toi, tu obéis. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous demande face à nos inquiétudes. Faisons-lui confiance. Il est fidèle. Il a les clés nécessaires entre ses mains qui ouvrent toutes les portes. Alors, ne doutons pas. Maintenant, plus jamais seul face aux tempêtes. Et des tempêtes, certainement, en avez-vous vécu. Alors, j'ai retenu cette fameuse tempête que l'on trouve dans les évangiles. Vous vous souvenez, lorsque les disciples sont dans la barque avec Jésus ? C'est arrivé deux fois, mais notamment cette fois-là, Marc chapitre 4 et verset 35, je lis ceci. « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Et tout d'un coup, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents, le vent et la mer ?» Face aux tempêtes, comment n'avez-vous pas de foi ? Où est votre foi ? Trois évangiles en parlent, et avec des mots différents. Jean de peu de foi. Jean de peu de... Quand Jésus se réveille, c'est ce qu'il leur dit. Quand on réveille Jésus, c'est ce qu'il leur dit. Jean de peu de foi, où est votre foi ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Comment n'avez-vous point de foi ? Franchement, ce n'est pas valorisant, ce n'est pas élogieux. Hein. D'ailleurs, dans la logique des choses, Dieu doit beaucoup plus souvent nous dire ça que nous dire « Oh là là, ta foi est extraordinaire, tu es un homme de foi, tu es un homme courageux, homme plein de foi, plein de courage, va de l'avant, fonce !» Ouais, ça, c'est dans nos rêves, hein. La vérité, c'est souvent pas ça. Hein. La vérité, c'est que face à la tempête, on perd pied. Hein. On perd pied, on a du mal à se situer, on a du mal à tenir ferme malgré tout. Et pourtant, franchement, il y avait des raisons quand même d'avoir peur, non ? Premièrement, il faisait nuit, c'est jamais très simple, en plus quand il fait nuit. Et deuxièmement, il nous est dit qu'un grand tourbillon s'est élevé. Cette mer de Galilée, elle est piégeuse parce que c'est la configuration des lieux qui font que tout est calme. Et d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, il y a une espèce de siphon qui se forme. Et si vous êtes pris dedans, la barque, elle est broyée, elle coule. Et là, on est en pleine nuit, on ne sait peut-être même plus trop où est le bord, est-ce qu'on en est loin, etc. Donc, quelque part, c'est assez critique. Le vent s'est soulevé, vous avez vu qu'il y a des paquets d'eau qui rentrent dans la barque. À un moment donné, elle va se remplir et elle peut basculer, couler. Ils sont nombreux dans cette barque. Il y a des raisons à leur peur. Il y a des raisons. Elles sont légitimes, non ? Franchement, moi, j'aurais eu deux fois plus la trouille qu'eux, c'est sûr. J'aurais été mort de peur parce qu'on n'a pas forcément le pied marin, ce n'est pas un élément stable, ce n'est pas facile. Donc, ils ont raison d'avoir peur. Évidemment, ils ont raison d'avoir peur. Mais là où je me pose la question, ils ont réveillé Jésus. Est-ce que c'était bien de le réveiller ? Il y a quelqu'un qui vient de répondre. Hein. Et vous avez remarqué que ce n'est pas un oui franc et massif. Hein. Est-ce que c'est bien de lui dire, on est en train de mourir. Maître, tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons ? Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr que c'était bien de réveiller Jésus au regard de son attitude après et de ce qu'il va leur dire. Parce que franchement, s'il dort, il le fait exprès. Non ? Parce que pour dormir dans des conditions comme ça, d'ailleurs, faites un test chez vous, si vous n'êtes pas seul, hein. Vous allez vers quelqu'un de votre famille qui dort bien. Vous prenez un verre d'eau, vous lui jetez à la figure, vous voyez ce que ça fait. À mon avis, il se réveille. Non ? Bon, il ne sera peut-être pas très heureux. Ou alors, vous le prévenez avant. Vous dites, c'est un jeu. Voilà. Jésus dort. Vous avez vu que la barque se remplit d'eau. Vous trouvez que c'est naturel ? C'est normal ? C'est peut-être volontaire, non ? C'est sans doute volontaire que Jésus ne se réveille pas. Et quand il le réveille en disant « on est en train de mourir », la remarque de Jésus est alors « je suis là ». Tu t'inquiètes pas ? Je suis là. De quoi vous vous inquiétez ? Je suis là. Où est votre foi ? C'est sérieux ce que je vous dis. Hein. Où est votre foi ? Où est notre foi ? Quand on est dans la tempête et qu'on a l'impression qu'on va mourir et qu'on crie au ciel en disant mais aide-moi, je vais périr, je vais mourir. Jésus était là. Je pense que ce n'est pas Jésus qu'ils auraient dû réveiller, c'est leur foi. Ce n'est pas Jésus qu'il fallait bousculer. C'était certainement leur manque de foi qu'il fallait secouer pour dire il faut qu'il se passe quelque chose. Soit dit en passant, ils le voyaient, ils voyaient bien que Jésus était là, et pourtant ils avaient peur. Qu'est-ce que ce sera quand ils ne le verront plus, hein ? Qu'est-ce que ce sera quand Jésus ne sera plus avec eux ? Eh bien, ça va vous étonner. Mais quand vous lisez le livre des Actes, Jésus n'est plus là physiquement. Il n'est plus là avec eux. Et vous avez Pierre et Jean qui sont capables de prier pour un infirme et il est relevé au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris cette parole de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, quand nous sommes au sein de la tempête, Jésus est là. Vous n'avez pas besoin d'aller le réveiller. Vous avez besoin de vous réveiller vous. On a besoin de se réveiller nous. Ce n'est pas lui qu'il faut réveiller, évidemment. C'est nous qui devons nous remettre en question et prier davantage et redoubler, évidemment, de prières et d'intercession, évidemment. Maintenant, on peut être face aux menaces. C'est dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, que deux hommes ont été confrontés à des menaces sérieuses. C'est le prophète Élisée avec son serviteur. Élisée avec son serviteur ont été à un moment donné en grand danger. Je lis pour vous, deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 14. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et le roi de Syrie envoya des chevaux des chars, une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville, cernée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Une fois encore, il y a une réalité spirituelle que les autres ne voient pas. Comme les disciples dans la barque qui ne voyaient pas qu'ils pouvaient s'en sortir parce que Jésus était là. Même s'il dormait, il était là et il ne dort jamais. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Comme Josué face à Jéricho, il n'avait pas vu que le chef de l'armée de l'Éternel était là et qu'il allait gérer le combat et que ça allait bien se passer. Là encore, voilà un homme qui a peur. Parce que la ville a été encerclée. Manifestement, on vient pour les kidnapper, pour les enlever, pour enlever Élisée le prophète. Et sans doute, lui aussi fera-t-il le voyage. Alors il est rempli de terreur, il est rempli de peur. On a voulu arrêter Élisée et on a mis les moyens avec toute cette armée qui vient. On veut faire taire l'homme de Dieu parce qu'Élisée, c'est un homme inspiré. Et à chaque fois qu'une guerre, un plan était mené contre Israël, Dieu révélait cela au prophète qui avertissait le roi d'Israël et qui se mettait en protection pour éviter que les Syriens ne l'attaquent. Donc, aucune embuscade possible. Et à un moment donné, on a compris que c'était l'homme de Dieu qui révélait ces choses-là. Alors on a voulu faire taire l'homme de Dieu en le kidnappant, peut-être même en le tuant. Eh bien, Dieu ne permet pas. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que le monde a drôlement besoin d'inspiration aujourd'hui. Le monde en a besoin d'inspiration. Et je crois que Dieu ne permettra pas que sa parole, et on est dépositaire de cette parole-là, entre autres, ne permettra pas que sa parole soit emprisonnée. Sa parole court la terre avec vitesse. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc il continue à faire cela. Et le monde a besoin d'inspiration. Et le monde en a besoin. Et le monde a besoin de nous pour l'inspirer, sans aucun doute. Croyez-vous que Dieu permettra que toutes nos voix se taisent pour que plus jamais on entende parler de cette source d'inspiration? Je ne crois pas. Je crois que même si la ville est enveloppée et qu'il n'y a pas d'échappatoire, à la question du serviteur, mais comment ferons-nous ? Élisée lui dit, mais regarde, regarde donc. Et il regarde, il ne voit rien. Et on insiste, regarde. Et qu'est-ce que d'un coup il voit, après qu'Élisée ait prié, des chars de feu qui entouraient la ville, des chars de feu qui étaient là en protection, des chars de feu qui étaient là et qui étaient là pour les protéger, pour les garder. C'est fou, hein ? Il vit avec Élisée, il a vu des choses comme Élisée, il a entendu des choses comme Élisée, et pourtant, il ne voit pas comme Élisée. C'est terrible, hein ? Il ne voit pas ce qu'Élisée voit. Alors, il a juste suffi d'une prière, « Ouvre ses yeux, Seigneur », et d'un coup, il a vu ce qu'il devait voir. Je crois que les mots du prophète n'auraient pas suffi, hein ? Mais la prière avait suffi. Dans le psaume 119, il est dit « Ouvre mes yeux aux merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux aux merveilles de ta loi. » Finalement, je me dis que cet homme avait déjà vu des choses sans doute incroyables, des miracles, il avait dû en voir. Vous côtoyez le prophète Élisée, vous voyez, vous entendez des choses. Ou alors, on lui en a même peut-être raconté des miracles. « Si tu savais ce que Dieu a fait, comment Élie est monté au ciel, ce qu'il a vu, c'est extraordinaire, Dieu est à l'œuvre. » Et dès qu'arrive l'ennemi, dès que les menaces sont là, on a l'impression d'être seul. Comment on va s'en sortir ? Comment on va percer la muraille ? Comment on va passer entre les mailles du filet ? C'est impossible. Mais il y avait une armée céleste qui veillait, une armée céleste qui les protégeait. Et vous savez quoi ? Vous relirez le passage si vous voulez. L'armée céleste les a protégés sans intervenir. C'est encore plus extraordinaire. Sans intervenir. Les Syriens sont devenus aveugles, ils arrivent près d'Élisée qui leur dit « Celui que vous cherchez, il n'est pas là, il est plus loin, il l'amène au cœur de la ville, ils vont être tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent et ils sont faits prisonniers et ils vont rentrer chez eux, bredouille, et plus jamais pendant des années et des années, les Syriens ne vont venir faire la guerre à Israël. » Quand l'armée céleste est là, qu'est-ce qu'il pourrait nous manquer ? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés ? Je vais terminer. parce que le découragement pourrait nous saisir. Et c'est ce qui est arrivé au prédécesseur d'Élisée, c'est le prophète Élie. Élie a mené une bataille incroyable contre les faux prophètes dans le premier livre des Rois. La chose est racontée. Il vient de vivre quelque chose d'assez puissant, hein, d'assez phénoménal. D'ailleurs, il va rendre ce témoignage devant les faux prophètes. Écoutez ce qu'il va dire. Au chapitre 18 et au verset 22, alors qu'il a lancé un défi au roi Achab et à tous les prophètes de Baal, tous les faux prophètes, il va leur dire, vous allez offrir un sacrifice à Dieu, moi à vos dieux, moi de mon côté, j'en offre un à Dieu, celui qui répondra par le feu, c'est Dieu. Et il s'adresse à tous les faux prophètes en leur disant, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Eh bien, je vais les affronter. Il va les affronter et il va remporter la victoire. Ce qui va rendre folle de colère, Jézabel, l'épouse du roi Achab, qui va se promettre de couper la tête d'Élie, de le tuer. Ce sur quoi Élie va être pris d'un découragement. Quelque chose va l'envahir, un sentiment d'impuissance va l'envahir et lui qui paraissait si solide, comme quoi on peut être solide mais pas indestructible, hein, pas indestructible, il avait la foi, il était courageux, beaucoup de bravoure, quelle audace, quelle force, quelle autorité, mais là il craque littéralement et il s'enfuit. Il s'enfuit. Dieu va le retrouver, il s'est caché, terré dans une grotte. S'il a fait ça, c'est pour échapper à Jézabel hein, et à tous ceux qui sont partis à sa recherche. Tant qu'il marche par la foi, ça fonctionne. Quand il commence à réfléchir, à marcher par la vue, si vous voulez, eh bien, c'est fichu, ça ne marche plus. Et là, le ressort est cassé, il y a quelque chose qui cloche, ça ne marche plus. Pourquoi donc est-il envahi de peur? Pourquoi est-ce qu'il est débordé par ce découragement? Pourquoi il aura même des pulsions de mort? À un moment donné, il va se caché sous un arbrisseau et il va demander à Dieu de le faire mourir. Vous vous rendez compte? Il préfère mourir que vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va l'interpeller alors qu'il se cache, qu'il se terre dans cette grotte et il va lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi qu'est-ce que tu fais là ?» Et on a la réponse à la question de son problème dans ce qu'il va dire. Il dira « Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 14. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Il était fier de s'adresser au roi Achab et de dire « Je suis le seul qui tient debout et je vais affronter tes 450 faux prophètes. » Mais quelques moments plus tard, il se plaint d'avoir été seul. Il se vantait d'être seul en disant « Je suis le seul qui ait tenu le coup. Je suis le seul qui a affronté les tempêtes, qui ait résisté à tout cela. Je suis le seul !» Et puis un moment après, ben, il n'est pas fier d'être seul. Et dans le fond, c'est jamais bon d'être seul. Et c'est encore pire de se croire seul. Parce que déjà, ce n'est pas bien d'être seul, mais de se croire seul, c'est encore pire. Et lui, finalement, il n'a jamais été seul. Parce que si Dieu n'avait pas été avec lui, vous croyez qu'il aurait survécu à la famine? Vous croyez qu'il aurait survécu aux attaques d'Achab? Vous croyez qu'il aurait survécu aux 450 faux prophètes? J'en suis pas sûr. Hein. J'en suis pas sûr, mais Dieu était avec lui. Et il a ramené le peuple à son Dieu parce que Dieu était avec lui. Et c'est exactement la même chose avec nous, finalement. Le jour où j'ai le sentiment de réussir et d'avoir réussi parce que eh bien, j'étais capable de réussir, dans ce sens, je suis seul, seul maître à bord et c'est moi qui ai décidé, j'ai pris un risque. Parce qu'il va y avoir le retour de manivelle. Et tout d'un coup, je vais être pris d'un découragement, d'où que ça vienne, ça viendra. Et d'un coup, je vais me dire, je préfère mourir que vivre comme ça. Le truc, c'est que cet homme n'était pas seul. La chose importante, évidemment, c'est qu'il n'était pas seul. Il se croyait seul, seul à avoir résisté, à s'être battu, seul héros, finalement, dans ce monde rebelle. Et c'était une erreur, c'était même un mensonge. C'était une vanité, il s'est effondré. En fait, il n'était pas seul. Un peu plus tard, Dieu va lui dire, je vais encore t'utiliser. tu vas aller oindre Élisée, prophète, à ta place. Et puis un roi en Israël, et puis un roi de l'autre côté de la frontière. Et puis je te dis une chose, verset 18, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. Hé, Élie, tu croyais être seul ? Il y en avait 7000 comme toi. Ils n'étaient pas prophètes, certainement des hommes du peuple, mais ils ont été aussi courageux que toi parce qu'ils ont risqué leur vie. Ils ont tenu bon. Quand on a voulu les faire fléchir, ils ont résisté. Sans doute que certains ont été suppliciés, sont morts. Mais Élie, tu te crois meilleur que les autres. Mais non, tu n'es pas meilleur, il y en avait 7000 comme toi. Si au moins il ne s'était pas cru seul, s'il avait su que Dieu était avec lui, sans doute qu'il n'aurait jamais vécu ce moment-là. Sans doute qu'il n'aurait pas passé par cette terrible épreuve. Mais le fait de se croire seul était piégeux, parce qu'il pensait que c'était valorisant, alors qu'en fait, ça a été plutôt dur à encaisser. Frères et sœurs, ma conclusion, on ne va pas parler de ce personnage-là, mais vous le connaissez trop bien. Ma conclusion, elle est dans le livre de Daniel. Vous avez trois hommes dans le livre de Daniel qui ont été menés au supplice. Hein. On les a jetés dans une fournaise, un four crématoire. On les a jetés. On a chauffé le four 7 fois plus que d'habitude. Au moment où on a ouvert l'accès, il y a eu un appel d'air. Tous ceux qui ont jeté ces trois hommes qui étaient liés, hein, dans la fournaise, ont été brûlés et sont morts instantanément. J'aime autant vous dire que ça devait drôlement chauffer à l'intérieur de la fournaise. Mais que s'est-il passé ? Ils n'ont pas échappé à la fournaise. Ils n'ont pas échappé malheureusement au feu. Ils l'ont vécu et ils ont survécu. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que vous n'échappez pas à la fournaise. Vous la vivez, vous la vivrez, mais vous survivrez à cela. Vous survivrez. C'est ma conclusion. Vous survivrez pourquoi ? Parce qu'il va se passer exactement ce qui s'est passé pour ces hommes-là. Alors qu'ils sont au milieu du feu et que Nebuchadnezzar essaye de calmer sa colère en regardant le supplice de ces gens-là, il va adresser la parole à ceux qui étaient autour de lui et il va dire « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ce à quoi on va lui dire « Ben oui, certainement. » Et il répond « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. » Et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Dieu est venu avec eux dans la fournaise. Il était là. Et sa seule présence a enlevé tout dommage, a enlevé toute douleur, a enlevé tout cri, a enlevé toute souffrance. Ils étaient prêts à mourir d'ailleurs. Ils avaient dit, on ne t'adorera pas. Nebuchadnezzar, on ne se prosternera pas devant ta statue. Et si tu nous mets au feu, mais qu'on doit mourir, on mourra. Ils étaient prêts à mourir. C'est pour cela qu'ils ont vécu cette belle expérience. Sans entrave, sans lien, ils marchent au milieu du feu. Où est-ce que vous avez vu ça, vous ? Sans entrave, sans lien, ils marchent au milieu du feu. Ils marchent sereinement, tranquillement. Alors on va les faire sortir. Ils sont vivants. On va les faire sortir. On n'en fait sortir que 3. Le quatrième... Il n'a pas besoin de sortir. Hein. Il est venu tout seul, il repart tout seul. Et quand ils sortent, on s'aperçoit qu'ils ne sentent même pas l'odeur du brûlé. Rien. Et le roi Nebuchadnezzar a été convaincu d'une chose. Et c'est ce dont nous devons être convaincus, frères et sœurs. Il prend la parole et il dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, Michaël, Azaria, Anania, lequel a envoyé son ange » et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Que l'on dise cela de vous, que l'on dise cela de nous, frères et sœurs. Béni soit leur Dieu qui a envoyé son ange et qui les a délivrés parce qu'ils ont eu confiance en lui. Et ils n'ont pas hésité, quitte à mourir, ils n'ont jamais voulu se prosterner et servir d'autres dieux. Ma conclusion, nous sommes et nous pouvons être libres au milieu du feu et de la fournaise la plus terrible, parce qu'il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons vivre ces moments-là difficiles, sans entrave, sans lien, parce qu'il est à nos côtés. Et nous pouvons traverser ces moments paisiblement. Et ils n'étaient pas seuls. Ils étaient victorieux parce qu'ils se sont engagés. Ils ont vécu cette belle expérience parce qu'ils étaient résolus, pas de compromis, et parce qu'ils étaient aimés de Dieu. Frères et sœurs, ne doutez pas, ne craignez pas, ne renoncez pas, n'hésitez pas. Il est là. Plus jamais seul. Jamais, jamais seul. Ceci nécessite des engagements. Ceci nécessite une bonne disposition de cœur. Vous avez besoin d'être assuré face aux tempêtes, face aux menaces, face au découragement. Soyez libre au milieu de ces tempêtes, sans entrave, et marchez paisiblement. Il a dit qu'il serait avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.